En 1944, le journaliste François Crouzet avait 13 ans. Adolescent exilé avec ses parents collabos à Sigmaringen. Et en 1988, Crouzet se souvenait de l'atmosphère en France à la Libération.
Alors les gens de la collaboration qui étaient gravement engagés se sont rendus compte à ce moment-là que les menaces de mort qu'ils recevaient tous les jours et qui touchaient non seulement eux mais leurs femmes et leurs enfants risquaient d'être mises à exécution.
Vous allez payer pour tous ceux qui sont morts à cause de vous. À mort les collabos.
Ainsi, à la fin de l'été 1944, devant les menaces de la résistance, celles et ceux qui ont adhéré au régime de Vichy s'inquiètent et s'organisent.
Donc ils ont pensé qu'il valait mieux faire partir les gens qui leur étaient chers. Les faire partir où ? Les uns ont essayé de les abriter à la campagne, les autres se sont dit que le mieux était quand même de les mettre à l'abri de leurs alliés, de leurs amis de l'époque qui étaient les Allemands.
Et donc, à l'image de plusieurs centaines de Français, la famille Crouzet intègre la grande migration pétainiste vers Sigmaringen.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
À l'automne 1944, on l'ignore souvent, une colonie entière de collabos français débarque dans le Bad Württemberg. Presque 2000 personnes, célébrités et anonymes, espèrent trouver refuge dans ce château en Allemagne, sous l'égide du vieux maréchal, le héros d'un monde immuable.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles.
Devant la débâcle des certitudes éternelles, les pétainistes s'empressent de franchir le Rhin et s'installent dans la petite ville de Sigmaringen. Commence dès lors une forme d'occupation à l'envers. Des Français prennent possession de cette bourgade allemande dans une atmosphère de décadence. Alors, qui sont réellement celles et ceux qui ont fait le choix de suivre Philippe Pétain jusqu'au bout ? À quoi ressemble leur vie quotidienne dans cette Allemagne au bord de l'abîme ? Et quel rôle joue Louis-Ferdinand Céline au cœur de cette communauté d'exilés ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Troisième épisode, la colonie des collabos.
Vous allez ployer le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste ?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Après moi,
je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on voit venir.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Le récit débute le samedi 30 novembre 2024. Il est presque 15 heures, il fait froid dans le Bad Württemberg et l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon nous décrit le décor.
Nous sommes sur le quai de la gare de Sigmaringen. Deux petits pavillons de style néoclassique encadrent un pavillon plus petit mais muni d'une horloge indispensable dans une gare. Et puis des plaques émaillées ou des mosaïques nous indiquent que nous sommes bien à Sigmaringen. Et la gare de Sigmaringen a eu une importance absolument cruciale au temps où les réfugiés français étaient ici.
C'est dans cette gare de Sigmaringen qu'est arrivée 80 ans plus tôt la longue cohorte des exilés du régime de Vichy.
Alors la plupart des gens arrivent par le train, effectivement. Et cette gare de Sigmaringen va être la plaque tournante de l'immigration française pendant ces quelques mois.
Je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez autant besoin que moi.
Je connais personne ici, moi. Et moi non plus.
Parmi ces centaines de personnes qui ont choisi de se réfugier en Allemagne à l'automne 1944, on recense pêle-mêle des familles, des journalistes, des scouts, des fonctionnaires, des artistes, des miliciens ou encore des sportifs. Un monde bigarré qui tente de trouver ses marques dans cette toute petite ville. Un étrange spectacle décrit par Georges Scapini, ancien ministre du régime de Vichy.
Georges Scapini, dans Mission sans gloire, 1960. La grande rue est sillonnée en tous sens par des miliciens bruyants. À l'intérieur d'une brasserie, un homme assis seul et mélancolique devant un verre de mauvaise bière, un chat perché sur son épaule, triste. L'étrange cohue des émigrés sans but déambule misérablement vers un parc public. Des hommes, des femmes de tous âges, traînant des gosses par la main, et qui semblent ne pas être encore réveillés d'un rêve angoissé. La population de Sigmaringen, sans indulgence, considère ces envahisseurs gênants, pour la plupart miséreux. Tout cela serre le cœur, c'est lugubre. Pour le comble, il y a du soleil, et la désespérance de cette vision s'en trouve accentuée.
Sigmaringen, c'est un petit bourg, on va dire, de 7000 habitants à l'époque. Les réfugiés français sont autour, enfin, c'est une évaluation de 1500 personnes. C'est énorme, on est compte.
En proportion, c'est beaucoup, oui.
C'est énorme. Enfin, ça fait changer quasiment la nature de la population de la ville.
L'historien Henri Rousseau.
La plupart de ces réfugiés ou émigrés, on les appelle comme on veut, ne vivent évidemment pas au château. Il y en a très peu qui vivent au château. Ils sont logés dans les hôtels, vont dans les cafés, mangent très mal. Enfin, tous les témoignages concordent là-dessus. Et surtout, sont au milieu d'une population hostile. Et ça, ça vaut la peine de dire un mot là-dessus, parce que nous sommes ici en territoire catholique. Quand on arrive au château, la première chose qu'on voit en montant la rampe pour arriver au château, c'est cette immense église qui est caractéristique de la région. C'est une population qui est restée fidèle au prince. Alors évidemment, on n'est plus à l'époque médiévale, mais la famille princière des Hohenzollern-Sigmaringen exerçait, enfin c'est comme ça que je l'ai compris en tous les cas, encore une sorte de protection morale. En tous les cas, leurs sont restés fidèles. Voilà. Et la branche elle-même est une branche catholique. Donc, le prince a été arrêté, enfin, la famille a été arrêtée, évacuée.
Nous étions arrêtés par la Gestapo le même jour que le maréchal Pétain était arrivé ici à Sigmaringen.
Parce que la famille est soupçonnée d'avoir aidé au revirement du roi de Roumanie qui appartient à la famille des Hohenzollern, lequel a fait un changement d'alliance et s'est retourné pour soutenir les alliés. Bon. Donc, il y a une hostilité à ces arrivants qui sont quelque part associés au départ du prince. Et puis, alors c'est assez étrange, mais ce sont des collaborateurs des nazis. Les gens de Sigmaringen ne les voient pas comme des collaborateurs des Allemands, ils les voient comme des collaborateurs des nazis. Mais on n'est pas dans une terre où le nazisme a prospéré. Et donc, ces gens sont vus au mieux avec suspicion, au pire avec crainte. Et ça, je le sais pour avoir interrogé des habitants qui avaient vécu cette période. Beaucoup de gens de Sigmaringen, leurs habitations ont été réquisitionnées pour abriter des réfugiés, des miliciens. Et une de ces habitantes de Sigmaringen m'avait dit « J'ai dû recevoir un milicien et j'ai eu très peur. » Donc, encore une fois, les miliciens qui arrivent ici sont précédés d'une réputation épouvantable. En Allemagne. On est en Allemagne, on n'est pas en France. Hein. Et donc ça dit bien que l'atmosphère était compliquée quand même pour ces Français ici.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Elisabeth Gosselin, villageoise allemande de Sigmaringen.
C'était tout à fait normal qu'on avait peur que les Français qui étaient chez nous, nous dénoncent. Comme anti-allemands, anti-nazis, chez nous, sur l'étage, il y avait un journaliste et dans une autre chambre, il y avait la femme de milicien avec leur fille. La fille, elle pouvait avoir 17. Voilà.
Les vagues successives d'exilés péténistes s'entassent à la va-vite dans les logements de Sigmaringen. Une ville bien trop exiguë pour absorber ce flux continu de réfugiés français.
Oui, en réalité, Sigmaringen a été choisi par Hitler pour son château, pour des raisons lourdement symboliques et pas du tout pour des raisons pratiques. Alors, sans doute, ce qui aurait été pratique, c'était de répartir tous ces réfugiés à l'intérieur de cet immense château, mais il n'en était pas question. Donc, il restait dans le bourg où il s'était entassé dans les auberges et les hôtels existants. On n'est pas dans une station touristique de grande envergure, donc le tour est vite fait, si bien qu'il y a des hébergements chez l'habitant et puis beaucoup de bâtiments publics ou de bâtiments collectifs sont utilisés, soit pour héberger les Français, soit pour installer des services qui leur sont destinés.
Vous avez de l'argent ?
Pas beaucoup.
Bon, donnez-moi vos papiers. Je vais vous faire un bon de logement.
Mais tout ça se fait non seulement petit à petit, mais surtout vraiment à coup d'improvisation. Et d'ailleurs, les débuts ont été particulièrement chaotiques, puisqu'une fois arrivés à la gare, les Français avaient tendance à y rester, ne sachant quoi faire d'eux-mêmes et personne ne leur donnant d'indications.
Si vous pouviez nous donner un coup de main pour les bagages.
En avant pour la manœuvre.
Donc il y avait là un espèce de campement de fortune, et bien sûr, qui dit campement de fortune dit conditions de vie assez difficiles, avec éventuellement des risques pour la santé.
Il va falloir qu'on filtre les entrées. J'ai peur qu'on soit très vite débordé. Il nous faut des compresses et des pansements. Ce qu'il faut qu'on trouve absolument, c'est des sulfamides. Il nous en reste combien ?
8.
En 1988, Françoise Luchère, femme de Jean Luchère, exilée elle aussi à Sigmaringen en 1944, se souvenait de manière pittoresque de la réalité sordide de cette débâcle des collabos.
Cette ville qui était complètement endormie, ça c'est vrai, hein, c'est une petite ville de province, petite. Tout d'un coup, il y a des gens de tous les milieux qui arrivent là, qui vont dans les magasins, qui remplissent les salons de thé, alors que c'était la guerre, il n'y avait plus d'hommes. Donc tout d'un coup, on voit des hommes, tout d'un coup, on voit un tas de monde assez intéressant. Et il y avait tous ces jeunes de la milice, parce qu'il y avait un camp qui n'était pas très loin.
Le camp de Sissen.
C'est ça. Et alors, ça m'a fait un peu triste, parce que j'ai vu quelques jeunes gens de ce camp qui venait au Beren, parce que le Beren était plein de tous ces soldats avec des grands bérets bleu marine.
Le Beren, c'était un des hôtels de Sigmaringen.
Et il y en avait quelques-uns qui étaient comme des chefs scouts. Ça m'avait vraiment frappé. Je me souviens d'un certain garçon, un aristocrate, qui était venu nous voir, qui m'expliquait qu'il avait des graves problèmes parce qu'il avait au moins, je sais pas, une vingtaine de jeunes garçons, peut-être de 14-15 ans, qu'il avait ramenés là. Il n'avait rien à manger, personne ne s'en occupait. Il était parti comme ça, vous savez, il venait de Corrèze, il était parti avec un idéal. Il se retrouvait avec tous ses enfants, ses jeunes, et personne ne pouvait l'aider.
Qu'est-ce qu'il faut ? Droiture ! Service !
Entrée !
Discipline !
Travail !
La France aux Français !
En fuite, très mal approvisionnée et mal logée, la colonie des collabos a vite recours au système D.
Petites annonces dans le journal La France, 22 novembre 1944. Échangerai raglan, laine, bon état, contre canadienne doublée bon état. Échangerait parfum bas de soie naturel et autres contre parapluie bon état. Échange or pour dentier contre bottes homme 42 ou femme 38-39 ou vêtements chauds homme ou femme.
Tu vends des lacets ? Pas par choix, tu t'en doutes ? Pour manger ? Comme en plus je vends rien, mais je la saute.
Enfin, devant les faibles capacités d'accueil de Sigmaringen, se met en place à proximité de la gare un campement de fortune pour accueillir les tout derniers réfugiés.
Et c'est vrai que sans être catastrophique, la situation sanitaire, elle est assez médiocre à Sigmaringen. Il n'y a pas beaucoup de personnel médical disponible pour la colonie française, d'où la popularité, la notoriété de Céline, alias le docteur des touches, au sein de cette communauté.
Flanqués de leur chat Bébert et de leur ami, le comédien fasciste Robert Le Vigan, le couple des touches arrive à Sigmaringen début novembre 1944. Cet exil de Louis-Ferdinand Céline et de Lucette est pris en charge par les autorités allemandes. Il ne s'agit nullement d'une cavale improvisée. Et à Sigmaringen, la vedette littéraire des pro-nazis français est logée à l'hôtel Leuven, premier étage, chambre 11.
Céline, dans D'un château l'autre, 1957.
Au premier étage du Leuven, au numéro 11, notre Toddy, je dis Toddy, oui, deux paillasses, et quelles ? J'en ai vu d'autres, certes, bien d'autres.
Saleté !
Je vous parle énormément de WC, particulièrement ceux du Leuven. C'est qu'on était sur le même palier, la porte en face, et qu'il ne désemplissait pas.
Ah. Terminé. Merci.
Tous les gens de Sigmaringen, de la brasserie et des hôtels venaient aboutir là, forcément, la porte en face.
Je vous salue, monsieur. Oh, moi, monsieur, je ne vous salue pas. Bien en bas.
...80 ans plus tard, en novembre 2024, je retrouve l'historien Renaud Meltz dans une rue de Sigmaringen, au pied de l'immeuble qui abritait jadis l'hôtel Leuven. À quoi ça ressemble aujourd'hui ?
Alors, contrairement à d'autres lieux qui sont restés dans leur jus, on a ici un bar oriental, Gabi's Bar, et une steakhouse. Donc on a d'une certaine façon complètement changé d'époque et en même temps, dans leurs fondamentaux, les bâtiments n'ont pas changé et on voit bien ce qu'étaient les dimensions quand même assez importantes d'un hôtel qui a pu être cossu et qui est tout d'un coup complètement envahi avec une surpopulation pendant les quelques mois de cette occupation à l'envers de Français dans la ville de Sigmaringen. On imagine très bien le froid qu'il pouvait faire à l'intérieur avec les problèmes de chauffage.
Ferme la porte.
On est au mois de novembre encore, toute fin du mois de novembre, et il fait déjà un bon petit froid bien glacial, légèrement humide, avec un temps un peu brumeux. Et on peut très bien imaginer concevoir les fantômes. Et celui qui nous parle le plus évidemment ici, c'est Céline, dont il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre, bien sûr, la trilogie sur cette période, et notamment d'un château à l'autre. Mais en croisant ce récit, en essayant de le décoder à la lumière d'autres journaux, aux mémoires, mais surtout des journaux sur le vif, je pense notamment aux notes de Déa jour après jour. On peut penser aussi aux souvenirs de Corinne Luchère, à ceux de Rebattet. Il y a beaucoup de témoins qui permettent de ressusciter l'ambiance, l'atmosphère qu'il pouvait y avoir dans cet hôtel.
Marcel Déa, dans son journal, le 28 octobre 1944. Atmosphère de douce folie que je baptise Sigmaringite et qui prend des formes diverses.
«
Donc dans cet hôtel Leuven, il y a Céline, son épouse, Lucette Destouches, mais Lucette Almanzor, évidemment. Alors quel rôle il joue, ce Céline, dans cette communauté d'émigrés français à Sigmaringen-Renommels?
D'une certaine façon, Céline, il est un peu toujours à contre-courant. Et le pessimisme, la façon qu'il a de révéler aux exilés qu'ils sont foutus, qu'ils sont perdus, que la guerre est désormais gagnée pour les alliés, il sert un peu de détecteur, de révélateur à la détresse que les autres ne veulent pas s'avouer. D'ailleurs, il a des soucis un peu avec la police. On lui demande de ne pas parler trop haut parce qu'il y a une vraie police allemande qui règne en fait sur Sigmaringen malgré l'illusion de l'extraterritorialité française. Et il y a même des affiches qui sont là pour dissuader les gens de tenir des propos défaitistes encore jusqu'en avril 45.
Le pessimisme porte malheur. Qui n'a rien à perdre peut tout risquer.
Or Céline, à chaque fois qu'il croise un Français, se fait un plaisir de massacrer les illusions et qui appuie là où ça fait mal, à savoir, ça y est, à Paris, l'épuration a commencé et on peut commencer à se faire une idée très nette de ce qui va nous arriver, nous les vaincus de l'histoire.
Que ferez-vous, monsieur Abetz, quand l'armée Leclerc sera ici, à Sigmaringen, ici même, au château? Mettons, Céline, je vais dans votre sens, je vais exagérer avec vous, défaitiste. J'admets que nous soyons vaincus, là, puisque vous y tenez. Il restera toujours quelque chose du national-socialisme. Nos idées reprendront leur force, toute leur force. Nous avons semé, Céline, semé, répandu le sang, les idées, l'amour. Il s'extasiait de s'entendre parler. Rien du tout, Abetz, absolument rien. Vous vous rendrez compte, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Elle sera cocotte, la vôtre, d'histoire.
Faut pas oublier que Céline n'est pas un écrivain, Sigmaringen. Il est un médecin, en fait, un des deux médecins qui s'occupe de la colonie française. Mais ceux qui ne l'ont jamais vu découvrent cette espèce de gouaille d'esprit extrêmement caustique, et ça donne le ton quand même, effectivement, de cette vie fictive, de cette vie qui déjà semble une caricature d'elle-même.
Céline, dans la revue Art du 19 juin 1957, interviewée par André Parino. Croyez-moi, ce n'est pas par vocation que je me suis trouvée à Sigmaringen, mais on voulait m'étriper à Paris. Parce que je représentais l'anti-juif, le fasciste, le salaud, l'ordure, le prophète du mal. Donc je me suis retrouvée en compagnie de 1142 condamnés à mort, français, dans un petit bled allemand. Ça valait le coup d'œil, croyez-moi. Une cellule de 1142 types qui crèvent de rage, cernés par la mort.
Moi, je regrette rien. Tout ce qu'on a fait, c'était pour la France, pour l'Europe, pour la race.
On ne voit pas ça tous les jours.
Arrivé de son plein gré à Sigmaringen, contrairement à Pétain ou à Laval, Louis-Ferdinand Céline est donc officiellement nommé médecin de la colonie des collabos français.
Fais entrer le suivant.
Mais en vérité, le bon docteur Destouches a un objectif très concret.
Pour Céline, sa présence à Sigmaringen se justifie uniquement par son désir de passer en Suisse.
Odile Roinette est historienne.
On est près du lac de Constance et on est donc à pas très loin de la Suisse. Donc ça, c'est le vrai but de Céline. Mais le but qu'il va mettre en scène et qui par ailleurs l'occupe malgré tout, c'est de soigner des Français de la collaboration de Sigmaringen. On sait aussi qu'il pouvait disposer d'une entrée au château. Ainsi que sa femme d'ailleurs, qui pouvait aller s'entraîner, puisqu'elle était danseuse à l'intérieur des salles du château.
Alors moi, je vais m'entraîner dans le château.
Lucette Destouches, 1985.
Et j'ai fini par être dans la salle de musique. C'était glacial. Et c'était du marbre par terre, ce qui était pour beaucoup mieux.
Ah oui.
Et c'est là que je m'entraînais le matin pendant une heure ou deux.
Donc il avait un statut très privilégié et surtout, Il pouvait passer d'un monde à l'autre. Et dans le roman qu'il va écrire, D'un château à l'autre, il y a aussi beaucoup de choses sur en fait, ce passage qu'il fascine entre les collaborateurs les plus célèbres, ceux qu'il appelle les nantis, et puis les autres. Et donc, il joue beaucoup là-dessus.
Mais dites-moi pourquoi ce château-là vous intéressait particulièrement à décrire.
Ah ben parce qu'il était curieux.
Louis-Ferdinand Céline, 1957.
J'imaginais très bien la vie du Moyen-Âge, c'est-à-dire les seigneurs chez eux, et puis les vilains en bas. Là, vraiment, c'était une condition médiévale, parce qu'on peut considérer que les ministres passés en sommeil, comme ils s'appelaient, ou en activité, étaient véritablement dans la position de seigneur, alors que les collaborateurs du vulgum étaient vraiment dans la condition de vilains.
Vous ne voulez pas me donner les raisons pour lesquelles, finalement, ce château vous intéressait, enfin, pourquoi vous avez eu envie d'en parler, enfin, pourquoi...
Enfin, il est intéressant en ce sens qu'il est, assez cinéma, n'est-ce pas ? Et puis, il est pittoresque, n'est-ce pas, tout de même ? Et puis, il existe historique. Et puis, c'est un moment de l'histoire de France, malgré tout, l'affaire Pétain, n'est-ce pas ?
Dans son journal de bord, le journaliste français et collaborationniste Jean-Hérold de Pacqui affirme qu'à Sigmaringen, le docteur Destouches regrettait d'avoir écrit ces trois pamphlets antisémites. Mais attention, il s'agissait d'un regret vis-à-vis du danger judiciaire qui le menaçait désormais.
Intelligence avec l'ennemi, délation.
Et certainement pas d'un regret idéologique. Que dire d'autre sur la présence de Louis-Ferdinand Céline au cœur de la colonie des collabos durant cet automne 1944?
C'est un des rares moments où Louis-Ferdinand Céline, docteur Destouches, a été, disons, irréprochable.
L'écrivain Pierre Assouline.
Parce que, bon, pendant la guerre, j'en parle même pas sous l'occupation, avant la guerre avec ses pamphlets, etc., et même après la guerre, son absence de reniement de tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit. Mais là, dans ce moment-là, quand il débarque avec sa canadienne crasseuse, à l'intérieur, il y a des lingots d'or, parce qu'il a emmené des lingots en partant, c'est tout ce qu'il pouvait emmener. Et donc, Céline, avec l'unique docteur français à part lui, qui est le docteur Jacot, décide de réquisitionner le cabinet d'un dentiste allemand qui avait été mobilisé au front. Et ils ouvrent une consultation. Et il y a 2000 Français, ils sont deux médecins. Et il y a vraiment des urgences.
Tenez, venez donc avec moi, je vais vous montrer un cas de gangrène tout à fait pittoresque. Le tibia est sorti de la jambe de plus de 10 cm. Ça a l'air d'une blague.
Il y a pas mal de gens qui sont malades, qui sont blessés. Et là, pendant les 7-8 mois que ça va durer, on voit Céline d'abord soigner pratiquement tout le temps, pro bono. Il ne fait pas payer les gens, parce que personne n'a d'argent. Enfin, c'est... Donc c'est la misère. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il habite un petit hôtel. Leuven, il a une chambre. Ils sont, lui, sa femme et le chat, dans cette chambre. Je l'ai visité, c'est tout petit. Hein. Eh bien, tous les soirs, le patron de l'hôtel a pu en témoigner, tous les soirs, il y avait la queue dans le couloir qui menait à la chambre de Céline, de miliciens et autres qui venaient se faire soigner. Voilà. Et donc, il continuait le soir à soigner tous ces gens gratuitement.
Merci, docteur, vous êtes bien bon.
Allez.
Au revoir, docteur.
Voilà.
Et quand il ne faisait pas ça, il lisait des livres à la bibliothèque du château, ou alors il interrompait des meetings, parce qu'il y a toujours des meetings collabos, où on promettait de reconquérir la France et l'Europe.
Une société française disloquée, qui voit s'effondrer l'un après l'autre tous les piliers qui l'ont soutenu dans les temps de gloire. La famille, la vertu, la propriété, la patrie.
Et lui, quand il y allait, c'était pour faire un scandale. En se levant en plein meeting, on hurlait, mais vous n'avez rien compris, vous serez pendu à des crocs de boucherie, vous aussi. Tout ça est perdu, vous êtes inconscient, vous êtes naïf, etc. Et donc il se faisait un peu jeter, quoi, on lui disait arrêtez. Donc il repartait, il avait fait son petit scandale.
Durant cet automne glacial, le jeune François Crouzet, 13 ans en 1944, a peut-être été reçu en consultation par le docteur Destouches.
Faites entrer le suivant.
Qui sait ? Cet adolescent français a suivi son père en Allemagne, Guy Crouzet, journaliste collaborationniste et proche de Lucien Rebattet. Alors, à quoi ressemblait la vie d'un gamin de 13 ans à Sigmaringen ?
Salut.
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 La réponse par François Crouzet lui-même, en mars 1988, dans Les Nuits Magnétiques, sur France Culture.
On jouait beaucoup au bridge le soir.
Trois quarts.
Passe.
Trois piques.
Passe.
On se recevait de chambre en chambre, vaille que vaille, avec le thé ou les ersatz de thé, de café qu'on pouvait se procurer. On allait dans les environs quémander chez les paysans de la nourriture ou du schnapps. On flirtait surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, il y avait, Dieu merci, un assez grand nombre de jolies femmes. Et ça suffisait à entretenir un certain nombre d'intrigues, quelquefois tourner mal, tourner au drame.
Tu es arrogant et demeuré.
Arrogant et demeuré ? Bah toi, t'es stupide et gnangnan.
Quand on a 13 ans, on badine à Sigmaringen. Mais on étudie aussi, avec un professeur très particulier.
Et voici maintenant l'écrivain de l'année, Lucien Rebattet.
On travaillait beaucoup avec Rebattet à l'époque parce que à 13 ou 14 ans, c'était bien joli de savoir l'allemand et de faire le salut de la jeunesse hitlérienne et de marcher pieds nus. Mais il fallait quand même que je fasse de vagues études. Et Rebattet m'apprenait le latin.
Ferro, ferro, ferrae.
Et j'ai beaucoup travaillé avec Rebattet, qui était un personnage tout à fait fascinant. Un petit bonhomme perpétuellement en mouvement, une face de pomme ridée, avec une bouche agitée, des yeux pleins d'étincelles, une voix à la fois grave et grimpante. Et moi, je faisais du latin avec lui, mais il m'engueulait tout le temps parce que je ne comprenais pas.
Ferro, ferrae.
Vous comprenez bien le sens ?
Très très bien, oui. Pourquoi ?
Lucien Rebattet, fasciste et fier de l'être, exerçait sans doute son emprise intellectuelle sur l'esprit en construction d'un jeune homme de 13 ans. Un adolescent qui a peut-être aperçu d'autres lignes d'horizon que celles martelées par Rebattet.
On lisait aussi, on lisait beaucoup. Il y avait au château une bibliothèque dont la section française était très bien fournie. Il y avait tout Zola, tout Maupassant, tout Bourget, et on lisait sans arrêt.
Fréquenter la bibliothèque du château, ça nourrit l'âme, mais surtout, ça tue le temps. Et ça, c'est très précieux à Sigmaringen.
Alors en fait, c'est vrai que pour la colonie française de Sigmaringen, il faut s'occuper. Car tout le monde n'a pas la chance d'avoir un travail, même si les membres de la commission gouvernementale se sont efforcés de recruter du personnel pour montrer qu'ils servaient à quelque chose et qu'ils faisaient quelque chose, en particulier le commissaire à l'information Jean Lucher, qui a réussi à recruter une centaine de personnes. Mais bon, voilà, en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire.
Quatre cœurs.
Qu'est-ce que tu fais, tu passes ?
Oh, je passe.
Donc, la commission des loisirs ou la commission sportive, voilà, qui se sont constituées en ville, sont là pour occuper les gens. Donc, on va faire des conférences. Il y a un cinéma à cette époque-là à Sigmaringen. Donc, au moins, ça donne l'occasion de voir les actualités allemandes. Et puis, il va y avoir diverses manifestations artistiques, puisque des comédiens, des musiciens, des artistes font partie de ces réfugiés. Et puis, il y a le sport.
Journal La France, 7 novembre 1944. Rubrique Football. L'amicale des Français de Sigmaringen organisait, dimanche dernier, un dernier galop d'entraînement pour leur équipe représentative qui doit, dimanche prochain, rencontrer l'équipe belge de Lakertan.
alors le sport, il est incarné à Sigmaringen par le nageur Jacques Cartonnet. Peut-être que ce nom dit quelque chose à vos auditeurs, car il a été le grand rival d'Alfred Nakache.
Le 100 mètres nage libre met en présence les trois meilleurs Français, Daris, Cartonnet et Nakache.
Pathé Gaumont, 1936.
L'ancien recordman du monde que l'on voit à l'extrême droite fut battu par Nakache, qui parcourut les 100 mètres en 1 minute 1 seconde, remportant ainsi le titre de champion de France.
Et Jacques Cartonnet, eh bien, il a des opinions politiques d'extrême droite qui l'ont amené dès avant la guerre au sein du Parti populaire français, dans les journaux desquels il a écrit à partir de la deuxième moitié des années 1930. Il a continué sous l'occupation et ceci explique pourquoi il est réfugié en Allemagne. Et à Sigmaringen, il continue ses activités, alors pas ses activités nautiques, puisque en réalité, dans la période, se baigner dans le Danube, c'est trop demandé même à un athlète, mais il dispense ses conseils sportifs pour s'entretenir, pour faire de la gymnastique. Et il écrit même dans le journal La France pour donner ses conseils.
Jacques Cartonnet, dans le journal La France, 29 octobre 1944. Pour que vive la France, jeune en avant. Jeune, fais confiance au gouvernement et à l'élite révolutionnaire que tu as accompagné en Allemagne et qui se débarrasse chaque jour de ses scories. Jeune, accomplis ton travail avec joie. Fais-toi respecter par ta tenue.
Enlève les mains de tes poches, Michel.
Ta discipline librement consentie. Ton exécution rapide de tout ordre donné. Cultive ton corps pour imposer ta force. Cultive ta volonté pour vaincre. Jeune, en avant.
Pour la France !
Alors, à Sigmaringen, donc, on est censé avoir reconstitué la France dans toutes ses activités et sa diversité. Et donc, bien entendu, il nous faut des intellectuels collaborationnistes qui écrivent, qui débattent, qui font des colloques et des réunions. Alors, on va avoir un certain nombre, effectivement, de conférences et d'échanges avec des hommes comme Lucien Rebattet, qui est l'auteur du grand best-seller non fictionnel de l'occupation, Les Décombres. Il y a des anciens directeurs ou éditorialistes de journaux de la collaboration, comme Alphonse de Chateaubriand, à ne pas confondre avec l'autre. Et tous ces gens, eh bien, discutent comme si de rien n'était de la contribution de la France et des intellectuels français à l'Europe nouvelle, comprendre l'Europe sous domination allemande, et insistent tous, à distance du front néanmoins, sur la nécessité que des combattants français contribuent au sauvetage de l'Europe contre les hordes soviétiques qui s'approchent de plus en plus de l'est de l'Allemagne.
Dans cette colonie des collabos, même les miliciens s'ennuient. Ils sont désœuvrés, comme s'en souvenait très bien Georges Rouchouze, garde du corps du secrétaire général adjoint de la milice.
Alors à Sigmaringen, l'emploi du temps était le suivant. Aller passer les après-midi, lorsqu'on avait des tickets dans les pâtisseries, quand il y avait des gâteaux, et puis le reste du temps, eh bien, à se promener. Même nous avions pour tuer le temps, comme j'avais, avec d'autres camarades, pratiqué le rugby, on avait formé une équipe de rugby où on s'amusait entre nous, comme s'amusent des enfants qui sont complètement désœuvrés. Et puis, le soir, lorsque on le pouvait, car il y avait une discipline assez dure de la part des Allemands, on pouvait, avec des femmes allemandes, s'accoupler. Il m'est arrivé, moi, de le faire en hiver, sur un banc, après avoir chassé la neige. Car il était presque impossible à une femme allemande d'emmener un Français ou un étranger chez elle. Car il y avait des sanctions très sévères.
Pour tous ces réfugiés de Sigmaringen, une même obsession, le retour en France.
Vive la France, Albert.
Quand et comment va-t-on rentrer au pays ?
Vive la France.
Mais il faut essayer d'oublier cette attente. Et pour faire diversion, on fréquente le Café Schön. Le Café Schön, c'est un des lieux emblématiques de la sociabilité de cette communauté d'exilés.
C'est une pâtisserie. Ça l'est toujours, d'ailleurs.
Un café où je retrouve l'historien Henri Rousseau au milieu de la clientèle de l'automne 2024.
Et visiblement, à l'époque, si on en croit d'abord Céline, qui en parle tout le temps, c'était un lieu de rencontres, de discussions. Et donc, il apparaît pratiquement dans tous les témoignages. On est à quoi, même pas une centaine de mètres du château.
Frida Schön, propriétaire du Café Schön.
Ils sont arrivés. Ils ont convoqué mon mari pour réquisitionner le café. À partir de ce jour, la maison était occupée et nous ne nous servions plus que des Français. Il n'y avait que des hommes en uniforme. Les Allemands n'avaient plus le droit d'entrer. Les Français faisaient la cuisine et nous, quatre ou cinq filles, nous étions là pour les servir. Toute la journée, ils nous suivaient, les armes à la main.
Et donc, je suis venu ici en 1982. Je voulais évidemment voir les lieux. Et celui qui en a le plus parlé, évidemment, c'est Céline dans D'un château l'autre. Et j'avais avec moi un exemplaire du livre publié en Folio Gallimard. C'était une très belle édition, avec une très belle photo surtout. C'est ça l'important, une très belle photo de Céline sur la couverture. Et le livre était à côté de moi. Et la serveuse qui vient prendre ma commande, qui n'était pas toute jeune, une soixantaine d'années, regarde le livre et s'exclame « Herr Doktor, Herr Doktor !» J'expliquais qui j'étais, que j'étais un historien, etc. Mais c'est pour dire que Céline a laissé un souvenir assez fort à Sigmaringen. On le sait d'ailleurs, parce qu'il y a des témoignages là-dessus, parce qu'il n'était pas un simple émigré comme les autres. Il était médecin, et donc voilà, il a laissé ce souvenir, et j'ai gardé en tête cette exclamation « Monsieur le docteur, Herr Doktor ». Voilà, c'est une petite anecdote personnelle.
Cette enclave de Sigmaringen a longtemps été perçue dans notre mémoire nationale à travers la seule mise en scène qu'en a donnée Louis-Ferdinand Céline en 1957 dans son roman « D'un château l'autre ».
Foutu berceau Hohenzollern, pardi. Juché qu'il était sur son roc, traviole. Biscornu de partout, dehors, dedans. Toutes ses chambres, dédales, labyrinthes, tout. Tout prêt à basculer l'eau depuis 14 siècles. Quand vous irez, vous saurez.
Alors d'abord, pourquoi ce titre ?
D'un château l'autre, ça évoque évidemment le château des Hohenzollern à Sigmaringen. Et de fait,
Odile Roinette,
c'est une référence évidemment directe à ce château. Mais c'est aussi l'envers du décor de Sigmaringen, c'est-à-dire le taudis. Les taudis dans lesquels vivait la colonie. Et dans le roman, il met toujours en parallèle le château et les taudis qu'il appelle ironiquement des palaces, etc.
Ensuite, est-ce qu'on peut considérer ce roman de Céline comme une source historique ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est d'abord et avant tout un roman qui flirte avec l'histoire. Alors, Céline se prétend chroniqueur. Hein. D'ailleurs, il compare à certains moments son travail avec celui des chroniqueurs du Moyen-Âge, hein, Froissart et Comines. Donc, il y a ce côté « je vais vous raconter un moment de l'histoire de France ». Alors, il précise certes pas le plus glorieux, hein, avec un petit sourire, mais donc « je vais vous raconter ce moment », mais évidemment, c'est d'abord et avant tout une fiction. Il invente, il transpose, il joue. Et c'est un moment de jubilation littéraire extraordinaire pour lui, parce que, évidemment, ce qu'il va décrire, c'est l'apocalypse. Et il adore ça. Depuis Voyage au bout de la nuit, c'est son monde. Le monde qui s'écroule, la mort, la maladie, tout ça, c'est une sorte de sujet extraordinaire pour lui. Et là où il est un grand écrivain, c'est justement de choisir ça. Il n'a pas choisi de nous décrire sa vie pendant la collaboration à Paris. Non, pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de saisir ce moment où un monde s'effondre, qui était son monde, en fait. Qui était son monde depuis 1937.
Enfin, quel est le véritable enjeu politique pour Céline ? Avec ce roman sur son expérience à Sigmaringen, publié en 1957.
Il s'agit de construire en réalité un contre-discours, c'est-à-dire de concurrencer, d'écrire une autre histoire de Sigmaringen qui ne sera pas l'histoire du point de vue des résistants, du point de vue des alliés, du point de vue des libérateurs. Il veut écrire l'histoire du point de vue des vaincus. Il veut nous montrer qu'il existerait, je le dis bien au conditionnel, une autre histoire de Sigmaringen. Donc, il s'agit vraiment de contrecarrer une certaine image du rôle des alliés dans l'effondrement du régime nazi et de salir aussi l'image des alliés. Hein. Il veut faire une histoire des vaincus et pour ça nous montrer un certain nombre de vérités qui sont siennes, qui sont celles d'un nazi en réalité. Hein. Céline était nazi. Il voulait la victoire de l'Allemagne. Il a tout fait jusqu'au dernier moment pour cela. Et il continue, en fait. Et là, il peaufine une rhétorique qui est celle d'expliquer, au fond, que, bien sûr, il est depuis toujours persécuté, mais surtout que ce qu'on raconte aux Français, à l'opinion publique et aux Européens et plus largement dans le monde entier sur la libération de la France, ça n'est pas le véritable récit, que les libérateurs, ce sont les massacreurs, que lorsqu'on jette des bombes sur toutes les villes allemandes, qu'on détruit évidemment beaucoup de vies civiles, on est d'une certaine manière pas plus pardonnable que les nazis s'en prenant à la population juive, pas seulement allemande, mais évidemment de toute l'Europe. Donc c'est ce discours-là qu'il réinscrit, en fait, notamment dans D'un château l'autre. Il refait l'histoire à sa manière.
Démonstration par l'exemple.
Ça enregistre, là ? Mmh. Bon, on y va ?
En 1985, Lucette Destouches a accordé de longs entretiens à Frédéric Vitou, qui nous a confié ses enregistrements. Vous allez entendre comment la femme de Louis-Ferdinand Céline décrit le rôle du docteur Destouches à Sigmaringen.
Et Louis achetait ses médicaments qui faisaient venir de Suisse, contrebande, pour soigner ses malheureux Français. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de morphine, il n'y avait rien. Et les mômes qui naissaient mouraient. Et les Allemands avaient cette hypocrisie de dire tous les enfants, les nouveau-nés, d'un mois, on va les envoyer dans un camp à Sissonne. Je ne sais pas où ça se trouve, Sissonne. C'était à côté, soi-disant, pas loin de Sigmaringen. Oui. Et ils me disaient, ben, comme ça, les enfants ont quelque chose à manger, ils sont soignés. Alors, les gens qui avaient, ce sont des Français, un enfant, il n'y avait rien à leur donner à manger, on lui confiait à ce camp. Un mois après, un môme était mort.
Pourquoi ? Écoutez bien le raisonnement de Lucette.
C'est exprès. Alors, on parle des Juifs, vous comprenez ? Mais ils tuaient tout le monde qui était inutile.
Mais est-ce qu'il est tué ou est-ce qu'il est...
Ben, il s'est crevé.
Lucette Destouches relativise. Des nourrissons qui meurent à Sigmaringen, c'est la même chose que les enfants juifs qu'on extermine dans les chambres à gaz. Donc, les Français de Sigmaringen seraient victimes des Allemands comme les Français juifs. C'est ahurissant. Avec son roman, Céline cherche à inverser les valeurs.
Le livre est un livre politique. Par exemple, il attaque la résistance. Par exemple, De Gaulle, dans D'un château l'autre, est appelé Charlot. Et Charlot n'a jamais été dans les tranchées.
Pas plus vous avez vu Charlot descendre en tranchée, bazooka en poigne, refouler les tanks Fritz, ruser Matou.
Donc qu'est-ce qu'il fait là, en fait, mine de rien ? Donc il attaque De Gaulle, combattant de la Première Guerre mondiale, dont on sait qu'il a été fait prisonnier à Douaumont en 1916 et que c'est une blessure terrible pour De Gaulle. Donc il attaque aussi le courage de cet officier parmi tant d'autres qu'a été De Gaulle pendant la Première Guerre mondiale. Et il reprend un argument fondamental de la propagande antisémite des années 30 qui est les Juifs. Alors De Gaulle n'est pas juif, mais peu importe pour Céline, c'est pas grave. Ils ne sont jamais allés combattre en première ligne. Ils faisaient partie des embusqués. Donc De Gaulle est présenté comme un embusqué dans D'un château l'autre. Et ça passe en fait un petit peu sous les radars parce que c'est une petite notation comme ça, entre trois points d'exclamation, trois petits points. Mais le discours politique, il est là.
À Sigmaringen, le trait d'union entre tous ces exilés français, c'est la haine de la République.
Ce n'est pas renverser la République que nous voulons, mais la purifier, la rendre autoritaire.
Il était donc normal que leur héros atterrisse parmi eux à l'automne 1944.
Dès le voyage au bout de la nuit, il attaque par exemple la République. Pour lui, la République, c'est le régime Ony qui a mis en place le service militaire obligatoire. Et pour lui, le service militaire obligatoire, c'est l'instrument du massacre de 1914.
Beauté Auguste.
Et bien évidemment, dans cette République, il a des cibles particulières et déjà, évidemment, les Juifs proches des Républicains qui ont participé à la construction de cette Troisième République. Donc jusqu'en 1940 et ensuite. Donc voilà, je crois qu'on doit veiller sans relâche pour expliquer que ces textes ne sont pas anodins.
En conclusion de ce troisième épisode, retenez d'abord qu'à Sigmaringen, il n'y avait pas que Pierre Laval, Philippe Pétain et quelques ultras de la collaboration à l'abri dans leur château. Ce sont des centaines de Français qui sont venus trouver refuge dans l'ombre du vieux maréchal.
Je connais personne ici, moi. Et moi non plus.
Une colonie de collabos en déliquescence, décadente, mal logée et mal nourrie. Une communauté d'exilés qui attend avec impatience son retour au pays.
Vive la France, Albert.
Et qui fait semblant de croire à son unité, au service d'une France éternelle qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'infamie.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort de cette culture éternelle.
Parmi eux, un Louis-Ferdinand Céline survolté. Le bon docteur Destouches prophétise le pire et s'amuse sans cesse à fouetter les angoisses de ses compagnons d'infortune. Mais soudain, au moment des fêtes de Noël 1944, l'espoir change de camp au point d'inquiéter les Alliés.
L'offensive allemande, entreprise il y a une quinzaine de jours, a été pour beaucoup de Français un dur réveil.
Les Allemands contre-attaquent, les exilés de Sigmaringen sont euphoriques et les Français de France prennent conscience que la victoire finale n'est pas acquise.
Croyait-on qu'une puissance militaire comme l'Allemagne allait jeter l'éponge après une série de revers, qu'un régime qui a décidé une fois pour toutes de triompher ou d'entraîner l'Allemagne dans sa chute allait se laisser abattre sans réagir ?
Comment l'offensive des Ardennes laisse entrevoir aux collabos un retour en terre promise, c'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Elsa Le Poivre, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, La Divine Surprise. Le Crépuscule des Bourreaux est un podcast original de France Inter.